EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Hello les filles,
hello.
Bonjour, contente de vous retrouver.
Oui, moi aussi.
Ouais, ça va bien.
Oui.
Alors aujourd'hui, dans À table avec Annabelle, on va faire quelque chose d'un peu différent, de nouveau. Mais on va faire plein de choses de nouvelles choses dans toutes les semaines à venir. C'est la beauté de ce podcast, c'est que on a une très grande liberté et que il y en a pas un qui est obligé de ressembler à un autre. C'est chouette, ça.
Oui, on aime
à part
ça.
Vous. Je vous garde.
Nous, nous sommes toujours une nouveauté.
Exactement. Tellement fraîche, Stéphanie.
Comme des roses, ah, vraiment. Là, t'es fraîche comme une rose.
Oh, merci,
toi aussi. Toi aussi, Annabelle.
À chaque fois, t'as des petits...
Ouais, c'est ça.
Mais c'est bien. Merci, continue comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui,
ah
c'est
ouais,
ça. C'est que on va entendre un témoignage de Brunella. Brunella, qui est une maman avec une famille qui est différente peut-être de la famille un petit peu normale entre guillemets qu'on peut se faire de l'idée qu'on peut s'en faire en tout cas de la famille et du coup bah ça va être un super moment mais Brunella n'est pas avec nous sur place, j'ai envie de dire malheureusement, j'aurais bien aimé qu'elle soit là en vrai et du coup bah Brunella va passer ce temps avec nous à distance via visio. Si vous avez un meilleur terme pour le dire, si vous me suivez, dites-le nous, hein, parce que j'ai l'impression que c'était un peu mamie de dire en visio.
Mais, ah bon,
mais on comprend.
Oh,
c'est ça,
mais vidéoconférence.
Ouais.
Ouais.
Mais toi qui es très à la page, Stéphanie.
Mais quand tu dis ça, qui est pas à la page, c'est moi.
Non.
Je m'améliore. On peut toujours tendre vers mieux, tu vois. Ouais, ça va, on comprend
en visio,
bien.
Pour le mot visio.
Ouais, okay. Donc bon, on va tout de suite accueillir Brunella qui va être avec nous pour tout ce podcast. Coucou Brunella.
Salut Brunella. Bonjour tout le monde. Coucou.
Comment ça va?
Tu vas bien, Brunella?
Ça va bien.
Bah, on
oui,
est contente
merci.
De t'avoir. Alors sache que tu es la première invitée que nous avons à distance dans à table avec Annabelle et bah écoute c'est super. On va vivre toute cette nouvelle expérience
oui.
tous ensemble, tous ensemble et puis je crois on va mettre notre foi en action pour qu'il n'y ait pas de problème technique. Pour que la technique ne soit
oui.
pas un frein dans
yes.
cette discussion. Donc Brunella, je disais tu es une maman. Avec tu as trois enfants et c'est une famille qui peut être qui est un peu différente peut-être de la plupart des familles parce que tu as deux enfants, tes deux grands enfants, tes deux aînés qui ont des besoins spéciaux et tu vas pouvoir un peu nous en parler quels sont exactement leurs besoins, quel a été le diagnostic et en fait c'est ça, on veut aujourd'hui bah, entendre ton histoire parce que je crois qu'il y a d'autres familles, d'autres mamans qui le vivent. Peut-être que c'est pas des mamans, quelquefois ça peut être des sœurs, ça peut être des tantes, même des grand-mères. Et c'est une histoire qui est belle et qui est aussi particulière et que nous on ne pourrait pas forcément raconter. C'est pour ça qu'on voulait que toi tu puisses nous le raconter. Donc tu as trois enfants, Louane, Joshua et Raphaël. Donc est-ce que tu peux toi-même, bah, finalement on va te laisser te présenter toi-même, ça va être plus efficace.
Alors effectivement, j'ai trois enfants, donc je suis mariée à Cédric et nous avons trois enfants, Louane qui vient d'avoir 14 ans, Joshua qui a 10 ans et Raphaël qui va fêter ses 4 ans. Louane et Joshua sont tous les deux porteurs d'une maladie orpheline extrêmement rare. Au moment où nous avons diagnostiqué le handicap, on a découvert qu'il n'y avait que 40 cas dans le monde, donc 40 cas dans le monde et deux chez nous. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très 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 rare. Mon mari et moi sommes tous les deux porteurs sains. Et on ne le savait pas, on avait une chance sur je ne sais combien de milliards de se rencontrer et de donner les deux chromosomes atteints. Et donc à chaque fois, nous avons donné les deux chromosomes atteints, ce qui veut dire que Louane a développé ce polyhandicap et Joshua également. Donc voilà, la vie, elle est effectivement différente. C'est des besoins spéciaux qui sont particulièrement lourds parce qu'on est sur un tableau d'encéphalopathie. Nos enfants sont dépendants de nous, c'est des grands bébés. ils ne tiennent pas leur biberon, ils ne se tiennent pas assis, ils ne parlent pas, ils ne marchent pas. Voilà, donc c'est vraiment mes grands bébés. Et en décembre 2019, on a eu la joie d'accueillir Raphaël. Donc, c'est notre petit Kinder surprise. Je suis tombée enceinte en février 2019 de la façon la plus naturelle, surnaturelle qu'il soit, si je peux dire ça comme ça. Et on a donné les deux chromosomes en bonne santé, ce qui veut dire que non seulement Raphaël n'a pas eu de handicap, mais en plus, il ne pourra pas le transmettre à ses enfants parce que c'est un enfant, voilà, c'est notre bébé miracle. Voilà notre petite famille atypique.
Et est-ce que pour Louane et Joshua, avant la naissance, tu savais qu'ils allaient être porteurs ou c'est à la naissance ou c'est plus tard que vous l'avez découvert ?
Non, c'est beaucoup plus tard. Donc, j'ai eu une grossesse vraiment extraordinaire, remplie de joie, remplie de moments fun. Surtout qu'on a attendu très longtemps avant d'avoir Louane. On m'avait dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc, c'était vraiment notre bébé désiré. Mmh. Et quand elle est arrivée, j'ai eu un accouchement très difficile, effectivement. Mmh. Et c'est aux 15 mois à peu près de Louane qu'on a commencé à faire les examens et que le couperet est tombé. On nous a dit, voilà, votre petite a des anomalies cérébrales, mais on ne sait pas trop c'est dû à quoi. Nous avons fait 6 ans de recherche génétique. Mmh. Aux 4 ans de Louane, on a décidé de lancer bébé 2, donc notre petit trésor Joshua, en gardant en tête que 4 ans de recherche génétique intensive n'avait rien donné. Donc on était resté un peu sur une suspicion de souffrance fœtale, sans grande certitude, mais on s'orientait plus là-dessus. Donc, on a lancé notre bébé 2 sans imaginer une seule seconde que c'était génétique.
Mmh. Et quand Joshua est arrivé... Vous êtes jamais, quand vous avez, vous êtes lancé pour la deuxième grossesse, jamais vous vous étiez dit peut-être qu'on aura un deuxième enfant comme porteur. Vous ne saviez pas que Tumère Louane était porteuse de quoi que ce soit. Ok, donc là, ça a vraiment été double surprise.
Ah oui, ça a été double surprise, comme tu le dis. Et Joshua est arrivé, on voyait qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas, mais c'était rien de bien méchant. Il n'attrapait pas, donc on nous disait que peut-être qu'il avait un souci aux yeux, qu'il avait un retard, une petite déficience visuelle. Et jusqu'au moment où il a violemment convulsé, donc là, on s'est dit, on arrête de faire l'autruche en réalité. Et donc, on a repris les examens génétiques en 2014. Et en 2015, donc, aux 6 ans de Louane, on a appris que c'était une maladie orpheline, une maladie extrêmement rare et qu'ils étaient tous les deux porteurs de cette pathologie. Okay. Voilà.
Et est-ce que toi et ton mari, vous avez vécu une forme de culpabilité en vous disant que vous avez transmis quelque part, que vos chromosomes ont créé l'handicap ?
Alors, bien avant d'avoir le diagnostic génétique, on était sur ce discours, surtout moi, et je pense que c'est surtout les femmes qui vont se reconnaître là-dedans. Qu'est-ce que j'ai mangé ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Est-ce que j'ai pas assez bien dormi ? Voilà. Et puis après, on amène le côté spirituel en jeu. Est-ce que j'ai péché ? Est-ce que j'ai pas fait assez ceci ? Est-ce que j'ai pas fait assez cela ? Puis, il faut aussi replacer le contexte. Mon mari et moi, on a été touchés par le Seigneur en 2000. Je tombe enceinte en 2009, mais dès qu'on a été touchés par Dieu, on a tout de suite consacré nos vies. On a été appelés au ministère, donc on servait le Seigneur à plein temps. J'étais dans la louange, dans la pastorale, et puis là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur ? Je jeûne, je prie, je vois des miracles, ma vie est pure, en tout cas, j'essaye. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, on essaye de trouver un coupable. Quand on n'en trouve pas, au final, le coupable, c'est nous. Parce que, la nature humaine, elle est faite comme ça. Et donc, on bataille dur avec la culpabilité, effectivement. On ne sait pas... Peut-être que je me trompe, mais je pense que, comme Cédric et comme moi, on était tous les deux porteurs, peut-être que ça nous a protégés de ne pas nous prendre la responsabilité sur un de nous. Accuser l'autre. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas trop bataillé avec ça par rapport à l'un ou l'autre, mais on a bataillé avec, effectivement, chercher un coupable, une justification, essayer de comprendre pourquoi, un mystère qu'on comprendra peut-être que quand on sera là-haut un jour. Donc voilà.
Et ça ressemble à quoi en fait une journée chez vous au quotidien?
À la foire.
Ça va, t'as l'air de le prendre avec le sourire.
Ah ouais. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à et Dieu créa la terre quand le Saint-Esprit se mouvait sur une masse informée vide. Tu vois, c'est un peu ça chez nous.
Ah ouais, on se voit.
C'est le chaos, je
crois. C'est ça. En fait, j'en rigole, mais on est très organisé. Chaque minute est précieuse. Chacun est à son poste. Le matin, on se réveille. On a les petits-déj, les changements de couches, enfin, l'hygiène, le bain et tout ça, les traitements anti-épileptiques. Ensuite, on a, parce que évidemment, quitte à avoir des bonnes idées, autant l'assumer jusqu'au bout, mais j'ai choisi de faire l'école à la maison.
Ah oui.
Donc, après, j'enchaîne avec l'école à la maison pour Raphaël, pendant que papa s'occupe de Louane et de Joshua, puis on se retrouve, on prend une petite pause, ensuite on fait le repas du midi, on fait manger les enfants, on en a pour 1h30. Après, c'est l'heure de la sieste. Pendant qu'ils sont à la sieste, ben, nous, on a notre pause à nous. Et puis après, ils sortent de la sieste, on enchaîne sur le goûter à 4 heures. Quand le goûter est terminé, on a un moment de jeu. Et puis après, à 5 heures, on reprend le repas du soir. Et à 19h30, chrono, après les bains, les traitements, les câlinous, les brossages de dents, les changements de couches. 19h30, on prie et tout le monde est au lit. Et 20h, c'est la pause sacro-sainte avec mon cher et tendre. Donc voilà, je peux te le réciter aussi simplement parce que c'est une mécanique bien huilée à la maison.
Ah waouh, wow. Ouais. T'es mieux organisée que beaucoup en fait. Vrai.
Et du coup, moi, ça m'amène à te demander, est-ce que l'organisation, j'imagine que vous l'avez adaptée pour votre famille parce que c'est votre famille, mais est-ce que vous avez pu aussi vous inspirer peut-être de d'autres personnes qui vivaient peut-être une situation similaire, ou vous êtes vraiment partie de rien du tout pour construire tout cette organisation?
Alors, sincèrement, on est parti de rien. Au moment où on a traversé le diagnostic avec Louane, comme je te le disais, on servait vraiment le Seigneur à plein temps et on s'est orienté, on est allé chercher, on voulait se documenter et on n'a vraiment rien trouvé dans le milieu francophone. À cette époque, on parle de 2009, donc il y a déjà 14 ans en arrière. Et les quelques rares ressources que j'ai vues ont suffi à me miner le peu de morale que j'avais. Je suis tombée sur des choses... porte ta croix, tu as peut-être une malédiction. Donc, c'était compliqué pour mon cerveau de concilier le Dieu bon que je venais de rencontrer avec le porte ta croix de l'autre côté. Et puis, me dire comment un Dieu aussi bon me demande... Enfin, c'était compliqué. C'était un non-sens. Donc, j'ai préféré clore tout ce que je voyais passer sur le net et juste faire confiance au Saint-Esprit. Et puis, le Seigneur, il est bon. Il nous dit dans sa parole, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Donc, si on reste attaché à lui, c'est lui qui nous enseigne, surtout quand on est peut-être pionnier dans ce domaine, on ne sait pas trop comment faire pour défricher, comment faire pour gérer un petit bébé qui pleure beaucoup trop. Il faut savoir que dans leur pathologie, il y a une cause inexpliquée de pleurs. On est allé une fois jusqu'à 72 heures de pleurs non-stop. Donc voilà, quand on sait à quel point les pleurs, c'est compliqué à encaisser au niveau mental. On a traversé des moments vraiment, vraiment houleux et puis c'était des pleurs qui étaient vraiment inexpliquées avec des batteries d'examen à la clé. Et puis on avait 72 heures, ça se calmait. Et puis peut-être que 15 jours après, on reprenait dans des moments comme ça. Donc voilà, mais à chaque fois, le Seigneur a placé les bonnes personnes à nos côtés. C'était des personnes qui n'étaient pas forcément chrétiennes. Je me rappellerai, alors je parle de lui dans chacun de mes témoignages parce que je pense qu'il nous a sauvé notre vie et il a sauvé la vie de mes enfants. Mais une fois, j'avais amené Louane pour encore une nouvelle fois à l'hôpital parce qu'elle pleurait beaucoup. Alors on me disait, c'est les coliques, ça va passer. Et puis il m'a assis en face de lui, c'était un vieux monsieur qui avait une grosse barbe blanche, je sais pas, je me suis demandé s'il était pas de la famille Noé et qu'il n'était pas de cette époque tellement il paraissait si vieux, on n'arrivait pas à lui donner un âge à cet homme. Et il m'a dit, assieds-toi, j'ai besoin de te parler. Et il me dit, quand ta petite elle pleure, s'il te plaît, mets-la dans un lit, en sécurité, ferme la porte et va décompresser à l'extérieur, mais surtout, tu ne la secoues pas. Et quand il m'a dit ça, ce monsieur, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais jamais je vais secouer mon enfant, jamais. Sauf que quand on est dans l'instant présent et que ça fait 72 heures qu'on encaisse des pleurs et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et qu'on est fatigué, qu'on s'effrite avec son conjoint, et ben le « ça suffit », ça peut très vite arriver. Et à chaque fois, cette phrase m'a préservée. Et donc, quand je sentais que là, ça partait un peu trop, c'est comme si le Saint-Esprit me ramenait la voix de ce monsieur. Et donc, je faisais mécaniquement. Pose-la dans son lit, mets des coussins autour, ferme la porte et va décompresser. Donc voilà, c'est vraiment le Seigneur a placé à chaque fois les bonnes personnes sur nos routes. Mais pour répondre à ta question, non, on n'a pas eu de personnes. Et puis, il ne faut pas se mentir, même si on avait rencontré quelqu'un ou une famille, ça aurait été une famille avec un enfant, mais pas deux.
Et comment d'ailleurs vous avez géré le regard des autres, la vie aussi des autres, parce que c'est pas commun comme situation. Alors du coup, comment est-ce que votre famille a réagi, vos amis, l'Église et tout ça, comment ça se passe, vous allez faire vos courses et tout, moi j'ai ma petite fille, elle pleure depuis 72 heures, donc tu vois, déjà quand t'as un bébé qui pleure un peu, tout le monde a 14 avis sur le bébé, sur tout ce qu'il peut avoir. Donc, comment ça se passe dans ces cas-là?
Ça se passe, c'est très compliqué. Ça vient rajouter un joug supplémentaire sur la famille, je pense, sur les parents, parce qu'au-delà de la pression, comme tu le dis si bien, chacun a son avis à donner. Parfois, je pense qu'on manque de sensibilité au Saint-Esprit, parce que c'est pas parce qu'une chose a été faite comme ça depuis la nuit des temps que ça veut dire que sur l'instant T, c'est aussi comme ça que ça doit se passer. Donc vraiment, j'encourage les chrétiens, quand vous ne savez pas quoi dire, restez silencieux. N'oubliez jamais que même le silence, c'est une louange pour l'Éternel. Donc des fois, vaut mieux fermer sa bouche et louer Dieu que d'aller dire une bêtise. Parce que cette bêtise, elle peut vraiment occasionner des gros bobos dans le cœur des mamans ou des papas qui sont déjà assez au bout du rouleau. Moi, je me rappelle de cette amie Sandrine qui, lorsque je l'appelais pour lui parler, des fois, en fait, elle disait rien. Et je me demandais même si elle était au bout du fil. Et je pleurais. Et puis, elle me disait juste, je ne sais pas quoi dire, mais je suis là pour toi. Et en fait, juste ça, c'était précieux pour moi. Je me rappelle d'autres amies, en l'occurrence peut-être une des petites abeilles de votre plateau qui a été là pour garder ma petite Louane, pour me permettre des fois de sortir. Voilà, d'avoir juste une petite bulle avec mon chéri. Voilà, je pense que c'est important de ne pas donner son avis sur la question, sauf si Dieu vous l'a explicitement demandé. Parce que sinon, ça peut vraiment occasionner des choses incroyables, et juste prier, en fait, pour que cette famille rencontre Jésus. Parce que dans ces moments, en fait, il est le seul dont on a besoin. Et donc, juste que Jésus vienne rencontrer notre humanité et que nous, on ait les oreilles et les yeux attentifs et ouverts pour écouter ce qu'il doit nous dire. C'est vraiment ça. Je pense souvent à ce passage qui dit « Un frère offensé est pire qu'une ville forte », comme nous dit la parole dans Proverbes. Et il faut se dire que quand on a un enfant différent, on est offensé. Et la première personne à qui on en veut, c'est Dieu. Si tu existais, si vraiment tu étais le Père bon, qu'est-ce que tu fais? Donc, on est offensé contre lui. Et donc, en fait, comme dans une ville forte qui paraît tellement encadrée de murailles, il nous faut aller chercher la toute petite porte qui va nous permettre de rentrer à l'intérieur de cette muraille. Et nous, on ne sait pas, mais le Saint-Esprit, il sait. Donc, en fait, juste demander au Saint-Esprit, c'est quoi la petite porte pour venir assiéger cette ville forte de ton amour? Et en fait, après, c'est lui qui fait son œuvre. Mais voilà, n'oubliez jamais que quand on est dans notre cas, on est offensé. Moi, ça m'aura pris, Annabelle, je crois, 6 ans pour un jour, durant une période de jeûne, m'asseoir et m'entendre dire « Je te pardonne ». Et quand j'ai dit ça, ça a été une digue sans fin. J'ai pleuré. Ouais. Et je me suis dit « Ça paraît complètement dingue, mais qui es-tu pour dire « Je te pardonne, Seigneur ?» C'est fou, en fait. Tu peux prendre mon souffle de vie comme ça. Mais ça m'a fait du bien de le dire, parce qu'en fait, ça m'a fait faire le constat que j'étais amère contre lui. Et juste de le vocaliser, c'est comme s'il me disait, en gros, t'as bataillé pendant 6 ans, maintenant c'est bon, je prends le relais là. T'as vu ? Donc maintenant, j'ai ma bétadine et mon coton et je vais pouvoir venir désinfecter la plaie. Et voilà. Donc,
c'était exactement ma question pour toi, parce qu'on voit que tu... Alors, comme moi, je veux te féliciter. Je ne sais pas si vous, les filles, mais oui, c'est bien tellement bien inspirant de te voir. Et moi, j'essaie de me mettre... Parce qu'on peut s'identifier. Tu sais, ça peut être une maladie qui est physique. Ça peut être certaines qui écoutent que leurs enfants sont une maladie mentale, de la dépendance, de la toxicomanie. Tu vois, on vit des choses avec nos enfants. Et j'aime... ton authenticité, je m'en allais te poser la question, combien de temps tu as mis à rebondir? Parce qu'il faut être honnête, tu sais, on a tous des rêves, des idéaux pour nos enfants, tu sais, qu'on les porte, on s'imagine, tu sais, ça va être comme ça, il va se passer ça. Puis, ben, ça peut arriver que c'est pas comme on pensait, mm-hmm. tu vois. Et j'apprécie que tu le dises, que ça a pris 6 mm-hmm. ans, parce que je pense que, en tout cas, moi, je suis honnête, moi aussi, tu sais, je régalerais avec Dieu, disant, pourquoi je vis ça, pourquoi mm-hmm. pas les... Surtout quand ça touche, tu sais, les enfants, c'est ce qui a mm-hmm. un de mes plus grands rêves, tu vois. Et quand je te vois, c'est très inspirant de me dire, si Dieu l'a fait dans ta vie, puis on te regarde, tu es vraiment littéralement rayonnante.
Ah, oui,
c'est une source d'inspiration incroyable. Et je trouve ça bien, parce qu'on a le droit de dire au Seigneur pendant une période de temps, qu'est-ce que, pourquoi moi, tu sais? Et à un moment donné, il faut arriver honnêtement puis d'accepter sa souveraineté puis sa volonté, puis qu'il vienne nous guérir. Et c'est merci de l'avoir partagé, que c'est... Je suis sûre, tu sais, on voit un témoignage souvent, mais on voit pas le cheminement de la personne. Et il y a des souffrances dans ce que vous traversez, il y a des blessures, mais la beauté, c'est que vous n'êtes pas seul, puis Dieu est venu, il est intervenu, puis il fait vraiment des choses incroyables à travers vous, à travers ta famille, et tu m'inspires beaucoup. Merci. Merci. Vraiment.
Merci Stéphanie.
Et comme Brunella, je voulais aussi te demander, au niveau du couple, ça se passe comment? Parce que c'est extrêmement demandant. Tu disais, c'est des enfants qui ont toujours besoin de vous et qui avaient aussi besoin de vous, parce que ta grande a maintenant 14 ans. Donc comment est-ce qu'on fait pour se construire en tant que couple, pour se retrouver en tant que couple et pour réussir à maintenir une vie forte, une complicité, des moments fun aussi entre toi et Cédric?
Alors, nous, on est des... Enfin, ces moments difficiles qu'on a traversés nous ont vraiment permis de nous attacher à Jésus. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est un problème de société, on se perd au niveau du mariage, on oublie ce fameux concept de l'alliance. Ouais. Et le Seigneur nous a préservé, Cédric et moi, sur l'alliance. C'est une alliance, et une alliance, on la préserve. Donc du coup, on a été intentionnels dans nos choix, avant d'être une maman, je suis avant tout une épouse. Donc ça, tout ça, c'était extrêmement important. Et du coup, on a dû choisir d'être intentionnels. Parce qu'on ne va pas se mentir, lorsqu'on est à l'hôpital, qu'on a la tête dans le guidon, eh ben, on oublie son couple, on pense maman, maman, maman. Et donc ça demande vraiment d'être intentionnel. Alors peut-être qu'on ne peut pas être intentionnel tout de suite parfaitement, mais on peut le faire sur des petites choses. Un exemple tout bête, dans notre famille, il y a un rituel, c'est qu'on fait les pique-niques dans le salon. Tu vois, on n'a pas des fois de nounou pour les enfants, mais on se dit, allez, on a envie de se faire un bon resto ce soir et on n'a personne pour garder nos poussins. Alors, quand les enfants sont au lit, on pique-nique dans notre salle. Mais c'est génial. et du coup, c'est juste, en fait, de se dire, comment peut-on être créatif? Comment est-ce qu'on peut prendre les 5 pains et les 2 poissons qu'on a dans les mains et les multiplier? Et comment est-ce qu'on peut prendre les choses qui sont très simples et en être extrêmement reconnaissant, plein de gratitude? Je crois que ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé, c'est la gratitude. C'est le fait de découvrir que Cédric ne réagit pas dans sa parentalité comme moi. Et c'est pas parce qu'on est différent que ma manière de faire est meilleure que la sienne. C'est juste que c'est différent. Et donc, tout ça, ça me demande d'avoir beaucoup d'humilité. Sauf que quand tu as les émotions à fleur de peau, clairement, j'ai envie de dire, c'est compliqué aujourd'hui de dire, je vais prendre sur moi et je vais te bénir parce que tu ne m'as pas bien parlé, mais ce n'est pas grave, je t'aime quand même. Non, c'est pas possible, c'est compliqué. Et ce qui est beau, c'est que Jésus nous aime et il nous aide dans notre humanité. Et on se plante et on demande pardon et on avance et on fera mieux demain. Et c'est OK. Et voilà. Et tu vois, pour rebondir sur ce que Stéphanie disait, j'ai appris dans la douleur à être authentique. Et C'est une caractéristique que je chéris plus que tout aujourd'hui. Et je crois que c'est le message de ma vie. J'ai aucun mal à le marteler aux gens. Soyez vulnérable, soyez authentique. Parce qu'il arrive un moment où les masques tombent. Ouais. Tu ne peux pas le préserver. Donc, vaut mieux que les gens te voient comme tu es, en fait. Nous, comme je vous disais, on était dans le ministère, on faisait les relations d'aide, les mariages, les enterrements aussi, les baptêmes, enfin bref, tout ce qu'on pouvait trouver à faire dans la pastorale. Et donc, imaginez quand même la scène, j'ai un enfant différent. Donc, la Bible, elle est la même. Hein. Les gens, on ne les change pas trop au fil des décennies. On a toujours les mêmes qui se disent, ben, ils ont péché ou c'est quoi? Pourquoi leur enfant est différent? Vous savez, un peu comme dans les évangiles, on a toujours un peu les mêmes personnages, hein, même au XXIe siècle. Donc, on a ces regards-là sur nous. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait un truc de pas bien. Mais c'est les pasteurs quand même. Enfin, donc, on a plein de questions. Et puis là, on arrive le matin à l'église. On est le dimanche matin, tu comprends. Donc, on lève les mains. On adore Jésus. Mais en fait, ça ne va pas du tout. Notre cœur est en lambeaux. On n'a pas envie, mais on est faux. Mais personne ne le sait, il n'y a que nous qui le savons. Et quand on vient te voir, tout va bien. Oui, ça va bien, ma sœur, sois bénie. Va dans la paix du Seigneur. Et toi, c'est le chaos dans ton cœur. Mais tu ne le dis pas, parce qu'en fait, il faut que tu préserves ça. Il faut que tu préserves tes faux semblants. Et moi, ça m'a pris beaucoup d'années. Et en fait, c'est comme si le Seigneur me disait, mais pourquoi en fait? C'est quoi le but du jeu d'être fausse? Et je suis tombée sur une phrase de quelqu'un qui disait parfois on perd plus d'énergie à vouloir préserver les trucs qu'on doit changer que de prendre de l'énergie pour guérir. Et c'est juste de dire, ok, bah en fait, Seigneur, tu sais quoi, bah, j'ai besoin de ta grâce et je ne suis pas parfaite. Et mon cœur, en fait, hurle de colère, mon cœur est en miettes, mon cœur est en lambeaux. Et bah, tu sais quoi, ce n'est pas grave, je ne vais pas montrer aux gens que je gère. Mais je vais montrer aux gens que voilà, mon cœur, il est en miettes, mais que tu en fais quelque chose de beau. Et c'est tout pour ta gloire, en fait. C'est tout pour toi. Et là, on peut dire, il est celui qui reconstruit sur les ruines. Il est la paix dans la tempête. Il est l'ami fidèle. Il est celui qui est avec nous tous les jours. Et là, ta vie prêche, Christ. Là, tu glorifies son nom. Tu te glorifies pas toi et tes efforts et tes masques, mais tu glorifies qui il est parce que tu es juste vrai.
Et c'est quand tu es vrai, en fait, aussi que tu attires les gens vers toi. Parce que quand les gens te voient un peu vulnérable, ben, ils veulent s'associer, parce que, ben, elle peut comprendre ce que je dis. Et c'est vrai. Et c'est dans ces moments de vulnérabilité-là que Dieu nous transforme vraiment et qu'on brille pour sa gloire. Mais ce n'est pas toujours facile à passer.
Vraiment. Puis moi, je suis vraiment aussi très, très inspirée par ton témoignage, Brunella, parce que c'est fou de voir. C'est comme, des fois, on peut vivre des situations comme ça, mais ce qui en ressort, c'est incroyable. Enfin, c'est presque triste à dire que des fois, il faut vivre des choses comme ça. Quand je vois ce qui en ressort de Brunella, c'est magnifique. Et ça met presque, entre guillemets, une claque, si je peux dire ça comme ça, ben, au monde où des fois, on peut avoir une vie un peu plus normale, mais sans vraiment, ben, comment dire, rentrer pleinement dans tout ce que tu dis, en fait. Que ce soit, enfin, j'aime comme tu parles du couple, comme tu parles d'être vrai, comme tu parles d'être authentique, comme ben, dans tout ce que tu dégages, dans tout ce que tu dis, mais ça donne envie, en fait. C'est super inspirant et en fait ça vient réveiller même, ben, justement les personnes, moi je me sens concernée, tu vois, qui pouvant avoir, ben, une vie entre guillemets, comme tu disais, normale, mais qui finalement, ben, attends, waouh, c'est alors que la personne, enfin, alors que on peut avoir l'impression que c'est, il y a plus de difficultés, plus de
et que ça peut être, ouais, c'est ça, que t'es dans une vie où finalement c'est un peu, c'est plus accessible pour toi de faire certaines choses, même par rapport au fait de prendre soin de son couple. Tu te dis, bah, peut-être que moi, tu sais, je peux faire garder mes enfants plus facilement, j'ai pas toute cette dynamique au niveau de la prise en charge des soins et tout, et pourtant, tu vois, je le fais pas. Au niveau de la vulnérabilité, de l'authenticité, c'est comme, bah, je vois Brunella dans son quotidien et je me dis, bah, si elle peut le faire, c'est sûr que, bah, moi j'ai l'impression que ça peut être encore plus accessible et je vais pas le faire. Et c'est ça, c'est vrai, qui est très très inspirant dans votre histoire, parce que c'est, vous auriez pu faire des choix humains, en fait, de vous dire, bon, bah, on a pas assez d'une vie pour tout vivre, et puis, bah, on va renoncer au couple, on va renoncer à la joie, on va renoncer au fait de servir. servir, on va renoncer au bonheur, tout simplement, on va juste se concentrer autour de nos enfants, et puis comme tu disais, avec tout ce que tu avais entendu, on va prendre notre croix, et puis voilà, on va juste vivre comme ça, et puis d'avoir, avec la grâce de Dieu, c'est sûr, mais avoir réussi à prendre la vie de ce côté-là, je trouve, et c'est que ta vie a l'air plus légère que la vie de beaucoup de gens qui, pourtant, vu de l'extérieur, n'ont pas tant que ça non plus de défis. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire. C'est la manière dont tu communiques tout, même ton amour pour Dieu, ta relation avec lui, ta relation avec tout, avec tes enfants et tout. Et ça, c'est...
Il y a juste à la regarder en plus.
Oui,
ça resplendit sur son visage.
Ouais, c'est ça. Vraiment, on ne se lasse pas de te regarder, Brunella.
Magnifique. Mais aussi, c'est qu'on voit que c'est un choix. C'est pas des fois, on pense que notre vie, c'est juste une question d'émotion. Si tu chacun d'entre nous, des fois, on peut traverser des chemins difficiles, mais tu as le choix de... Je dis pas qu'il n'y a pas des moments pour pleurer, mais si c'est juste basé sur tes émotions, comme tu dis, tu n'es pas intentionnel dans ton mariage, tu n'es pas intentionnel. Donc, des fois, il faut dire, Seigneur, c'est toi qui crée en moi le vouloir et le faire. Mm-hmm. Et tu peux me donner la force de choisir, choisir la joie, choisir d'y croire, choisir d'avancer, et pas je le sens ou je le sens pas, bien qu'il y ait des matins où on peut se permettre, n'est-ce pas, Brunella, on peut se permettre quelques matins, des fois, d'apitoiement, mais que des fois, quand même que c'est pas une... Je suis sûre que si tu te lèves ce matin, tu te dis, oh, j'ai senti. Non, je choisis la joie, je choisis que Dieu est sur mon chemin, je choisis que ça va être une belle journée malgré les défis. Et tu vois, moi aussi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que peut-être qu'il y a des familles, tu sais, tu dis, ça va bien, notre maison, mais honnêtement, on n'est pas à l'abri, tu sais, d'une tempête dans nos vies. Donc, des fois, ça peut être plus tard dans la vie d'adulte, tout ça. Et je trouve que le témoignage de Brunella, moi, en tout cas, ça m'inspire de dire, peut-être qu'en ce moment, je ne suis pas dans une tempête, tu sais, comme ça, mais si ça arrive, je ne suis pas la seule. On traverse toutes les filles des moments difficiles. Et c'est la force des témoignages comme ça. Tu dis, on serre les coudes, puis tu dis, garde, dans mes moments difficiles, je vais penser à Brunella. Si Dieu l'a fait dans sa vie, ben, il peut le faire dans la mienne.
C'est vrai. C'est sûr, il y a plein de gens qui doivent penser à toi souvent, Brunella, en se disant, ah, Brunella, si elle peut le faire, moi aussi, je peux le faire. C'est sûr, c'est certain.
Et c'est le même Dieu aussi. C'est le même Dieu, si Dieu l'a fait. Et tu sais, la notion de la question est plus le pourquoi. Tu sais, des fois, à l'église où j'étais, j'ai rencontré des femmes qui ont vécu des... Là, des fois, tu te couches le soir, mais tu te dis, pourquoi, Seigneur? Mais ces femmes-là, qui avancent vont dire dans quel but finalement. Puis des fois, c'est le fameux pourquoi de la. Tu sais, on compare nos familles, on compare nos enfants. Mais d'arriver de dire, regarde, ça, c'est la vie que Dieu m'a donnée parce qu'il y a une destinée à travers ça. Et des fois, c'est pas. Et moi, je dis toujours à la blague, des fois, je trouve que moi, j'ai des meilleurs plans que Dieu. Tu sais, pas à Dieu. Des fois, je trouve que mes scénarios sont meilleurs que. Tu tiens de vous et moi, là, les filles. Mais tu sais, c'est sûr que le plan qu'on fait, c'est peut-être pas toujours. Mais Dieu, à travers ces plans-là, c'est vrai, c'est pas cliché de dire qu'il est souverain, mais qu'il va le faire concourir à notre bien pour le témoignage qu'il veut, puis la façon dont on veut nous utiliser. Donc,
mais ça, justement, ça, Brunella, on va en parler tout à l'heure de ce qui est aussi ressorti de votre vie, au-delà de votre cercle familial. Mais avant, je voulais aussi qu'on parle de Raphaël, du petit Raphaël, parce que comment est-ce que vous avez vécu ça? Et comment Raphaël, lui, il le vit, en fait. C'est quoi son rapport, sa relation avec Louane et avec Josh? Comment est-ce que lui trouve sa place? C'est quoi son regard? Ben, il a 4 ans, tu disais. Donc, il a quand même encore un regard d'enfant. Mais est-ce que lui, il se dit, ah, mon frère, ma sœur, ils sont différents? Ou est-ce que, non, pour lui, c'est sa normalité? Parce que ben, c'est son grand frère, c'est sa grande sœur.
Alors, il le note que son frère et sa sœur sont différents. Il commence à le noter, à nous dire « Louane et Joshua ont un handicap ». Mais il est extrêmement complice, il est très tendre. Et je crois aussi que les enfants qui naissent dans ce noyau sont des enfants qui vont développer une compassion, une empathie, puis une sensibilité aussi. Un cœur que le Seigneur a déposé en eux pour voir les choses différemment. Donc, c'est vrai qu'il est très sensible à l'autre. Lorsqu'on va sortir, il va avoir le regard pour voir les personnes différentes qu'on va croiser, bien avant que nous-mêmes, des fois, on le voit. Il a développé des jeux, des choses dingues avec son frère et sa sœur. Donc vraiment, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Et puis Louane et Joshua l'aiment beaucoup. Ils ont aussi un regard de grands frères et de grandes sœurs sur leurs petits frères. Et ça se voit. Donc, on se régale. On découvre une parentalité différente. Mmh. Mais on se régale, vraiment.
Et est-ce que, justement, dans cette parentalité différente, est-ce que vous trouvez ça plus facile ou c'est juste différent pour vous?
C'est différent. Il m'arrive aussi des fois d'avoir les larmes qui coulent et de crier à Dieu pour qu'il m'aide parce que à 4 ans, on est en phase d'opposition. Alors, Seigneur, mais comment je vais gérer ça? Là, c'est compliqué. C'est des défis que je n'avais pas avec Louane et Joshua. Mm-hmm. Et je relativise. Je me dis si j'ai réussi avec Lou et Josh alors que j'avais pas de livre ou de choses comme ça à lire et que le Saint-Esprit m'a guidée. C'est lui qui a créé Raphaël et c'est lui qui connaît son mode d'emploi, donc il va aussi m'aider. Donc je crois que c'est complètement différent et ça nous apprend une façon autre aussi. C'est vrai qu'on préserve les moments avec lui, on lui octroie aussi des moments de vie et de qualité différents et en dehors aussi de son noyau familial. Hors handicap, okay. C'est important. Il a ses activités, il va au tennis, il voit d'autres enfants. Des fois, on sort, il n'a pas envie que Louane et Joshua viennent. Ben, c'est OK, il a le droit de ne pas avoir envie. Quand Louane et Joshua vont crier trop fort, il va nous dire « On peut les mettre ailleurs, ils me font mal au corps. » Donc, voilà une vie normale, quoi, de famille normale.
Comme je disais, c'est ça, c'est que au-delà de votre cercle familial, il y a quelque chose qui en est ressorti, c'est que finalement, à force de vous former, de vous documenter, de vous-même expérimenter certaines choses, vous êtes toi et ton mari devenus thérapeute certifié familial et conjugal. C'est bien ça, Brunella? T'es avec nous encore? Est-ce que Brunella est encore avec nous? Bon, Brunella, quand Brunella, si Brunella revient, mais du coup, je vais vous le dire, moi, Brunella est devenue thérapeute familiale.
Wow.
Et conjugale certifiée, spécialisée pour la famille avec les enfants différents et les aidants, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper inspirant, parce qu'on a dit à quel point Brunella était inspirante aujourd'hui, mais c'est qu'on peut faire, finalement, et un peu ce que tu disais, Stéphanie, de quelque chose qui était un problème au début, qui est un défi, on peut laisser Dieu le retourner pour que ça devienne une solution pour les autres. Et moi, c'est ce que je trouve merveilleux. Je pense que si Brunella était là, elle le dirait largement mieux que moi. Mais aujourd'hui, tout ce qu'elle a appris, peut-être à la dure, en fait, sans repère, sans modèle, elle peut le retransmettre à d'autres familles et puis leur permettre, de gagner du temps et puis aussi d'éviter de souffrir plus que déjà il y a de souffrance en prenant les bons chemins et en les aidant à voir les choses d'une autre façon parce que tu sais si moi je dis ça à une famille qui a des enfants différents, oh non mais t'inquiète pas ça va aller, écoute Annabelle tu connais pas mon quotidien, mais quand Brunella et Cédric le disent avec leur histoire, non je t'assure que ça va aller, c'est sûr que ça a une autre portée,
absolument, et c'est tellement je trouve ça tellement beau de voir comment, tu sais, comme je parlais des choix tout à l'heure, c'est qu'on s'entend que c'est un défi majeur qu'ils ont et qu'ils ont choisi de le tourner. Un peu, tu sais, ça me fait penser à dans la Bible, tu sais, les choses qui tournent pour le mal, mais Dieu a choisi de le tourner en bien. Et s'il y a une leçon que moi je retire, c'est vraiment d'essayer de prendre les épreuves, les défis de la vie, les tempêtes, mettez le mot que vous voulez, puis de dire, Seigneur, comment ça peut être utile? Et ça, c'est un levier pour... parce que je pense qu'on a, chacune d'entre nous, en tout cas, soyons authentiques, je veux dire, pour moi, notre premier réflexe, c'est s'apitoyer.
Oui,
on est d'accord. Et de dire... Non, aujourd'hui, tu sais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute l'émission et dit, moi, aujourd'hui, là, j'ai un peu comme la femme de là, tu sais, j'ai assez regardé en arrière. Là, je veux aller vers l'avant, puis utiliser ce défi, cette tempête, peu importe, et que Dieu puisse m'utiliser pour sa gloire. Et ça, c'est très, très inspirant. Et Brunella, son mari, c'est tellement un témoignage de ça. Et comme tu dis, ils ont quand même quelque chose à dire, n'est-ce pas?
Quand même.
Ouais, alors, je trouve ça vraiment inspirant.
Moi, je te rejoins, je vous rejoins aussi là-dessus. C'est vrai qu'on a vraiment, comme tu l'as dit, ce choix et cette possibilité de se positionner avec peu importe ce qui nous arrive. Est-ce que je vais m'apitoyer, est-ce que je vais me comparer, est-ce que je vais regarder à ce que je n'ai pas, ou est-ce que je vais utiliser ma vie telle qu'elle est pour justement en tirer quelque chose de bon, pour voir comment, Seigneur, on peut le tourner pour ta gloire, regarder à toi, puis en sachant que il va pourvoir, il va nous donner une grâce particulière, il va venir combler là où il y en a besoin. Ça va demander vraiment d'aller puiser en lui, ça c'est sûr, d'être accroché comme jamais, mais il a une solution en fait. Il y a aucune solution qui est où il y a pas de solution en fait.
Il y a pas de situation, il y a pas de solution.
C'est mieux comme ça. Il y a pas de situation, il n'y a pas de solution pour lui. Et ça peut vraiment nous encourager que.
Mais ce que j'aimais de Brunella pendant que tu parles là, ça me fait penser, c'est que tu vois qu'on l'écoutait parler, ils n'ont pas balayé sous le tapis les émotions. Tu sais, elle a dit une fois j'avais le goût de pleurer, j'arrivais pas à gérer. Et la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Et ça c'est normal. Je pense qu'il faut pas sauter les étapes. Mais tu vois, nous, dans notre famille, on a eu des défis, pas de santé physique, mais de toutes d'autres. Je veux respecter leur témoignage à mes jeunes, tu vois. Et c'était difficile pour nous. Mm-hmm. Et on était dans le ministère. Et je me disais, Seigneur, c'est sûr qu'avec un recul, une fois, je me disais, je ne voudrais pas repasser sur ce chemin-là. Mm-hmm. Mais ce chemin-là m'a transformée. Ouais. M'a transformée comme femme, m'a transformée dans ma relation avec Dieu, beaucoup plus de dépendance, mais m'a transformée dans mon ministère. Tu sais, espèce de compassion. Mm-hmm. Quand tu as souffert, je pense que tu peux comprendre les gens encore mieux qui souffrent. Parce que tu sais, tu as cette douleur-là, tu dis, je comprends. Et les gens ressentent cette compassion-là. Mm-hmm. Donc, ça change notre rapport aux gens. Et on s'entend qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, on peut dire que c'est quand même une période assez sombre de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Alors, les gens, ils ont besoin de... Alors, je pense que ce chemin-là, c'est propice à notre développement. Aussi.
Exact. Et est-ce que Brunella, tu es de retour avec nous? Si tu es là. Ah, oh, Brunella est de retour. On est contente de te revoir et bientôt de t'entendre, je crois, par la foi. Et est-ce que c'est bon? Tu nous entends, toi, Brunella? Ouais. Super. Ouais, c'est bon, Brunella, on est ensemble. Nous, en tout cas, on t'entend bien. On parlait de toi, d'ailleurs, Brunella, ça tombe bien que tu sois là.
Et alors, même avec des écouteurs, elle est magnifique toujours. Hein?
Ben oui. je voulais dire, avant de redonner la parole à Brunella, ce passage dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, au chapitre 1, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. » Et ça, c'est quelque chose qu'on aime, le réconfort de Dieu. Mais c'est en fait la suite. C'est il nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Et c'est là où on voit que y a quelque chose de supérieur. Et quelquefois, c'est trop tôt quand on est dans l'épreuve pour qu'on vienne nous le dire. Ah, tu vas pouvoir être un réconfort pour d'autres. Et quelquefois, c'est trop tôt, c'est sûr, pour nous le dire. Mais à un moment donné, il faut être aussi prêt à entendre cette parole pour se dire, je peux pas gâcher, en fait. J'ai trop souffert pour que ça ne serve pas. Et puis, de laisser Dieu retourner. La Bible nous dit que c'est Dieu qui transforme le mal en bien. Et là où le diable a voulu venir voler, a voulu venir détruire, se dire, mais Seigneur, non seulement je n'ai pas été volée, je n'ai pas été détruite, mais en plus, tu vas retourner ça en bien et je vais apporter le réconfort que tu m'as transmis, je vais pouvoir aussi le transmettre. Et on continue au verset 5. « De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. » Et à la fois, je trouve ce passage extrêmement réconfortant et en même temps moyen.
Il y a un réconfortant. Passer par la souffrance.
Je trouve un petit peu bref. Mais c'est de se dire, il y a quelque chose qui doit être transmis. Ouais. Et ce que Dieu va me donner, c'est pas juste pour moi. Je vais pouvoir le transmettre. Et quelquefois, pour certaines personnes, ça peut être motivant de se dire, Seigneur, je veux être relevé parce que je veux que ce soit un témoignage. Je crois pas que ça doit être la seule motivation pour le vivre, mais ceci dit, ça peut être quand même un encouragement. Et c'est exactement ce que Brunella et Cédric ont fait, c'est que ce réconfort dans la détresse, ils ont pu le transmettre. Alors Brunella, est-ce que Brunella est là? Brunella? Ah oui, Brunella. Ouais, nous, est-ce qu'on n'entend pas Brunella aujourd'hui, pour l'instant ? Non, on ne t'entend pas, malheureusement, Brunella, pour
mais
le moment.
Mais on te voit.
Mais on te voit. Et puis, vu que tu es déjà très belle, bon, c'est déjà pas mal.
Avec un sourire magnifique.
Mais écoute... bah écoute, Brunella, malheureusement, je suis désolée, puisque nous n'arrivons pas à t'entendre. On va se faire des signes.
Il va falloir la faire venir sur le plateau éventuellement.
Brunella, on va devoir faire venir Brunella au Canada.
Au mois de janvier, là, quand il va faire moins 30, hein, ça sera une bonne idée. Ça.
Ouais, c'est ça. Non, en fait, ah, mais Brunella, je t'ai entendu. Je t'ai entendu.
C'est OK?
Oui, c'est bon, Brunella.
De venir au mois de janvier. Elle s'est dit, faut que ça fonctionne.
Brunella, pendant qu'on t'entend, dis-nous, avec ton mari maintenant, vous êtes thérapeute et comment vous êtes spécialisée pour les familles avec des enfants différents et tout et les aidants. Donc tu me disais les aidants, c'est vraiment toute forme, c'est la fille qui aide sa maman, etc. Vous avez choisi de vous former et même d'être certifiée. C'était qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça?
C'est le fait de pouvoir servir notre société, servir la cité et puis mettre à disposition aussi ce que le Seigneur nous a promis pour les autres parce qu'on est, voilà, on a des gros besoins. Et c'est sûr que quand on n'est que parent, c'est compliqué d'avoir une place pour se faire entendre et pour avoir un pôle d'autorité, je veux dire. Donc, il nous a fallu nous certifier. Puis, c'est très bien parce que ça nous a permis de professionnaliser aussi notre pratique et de pouvoir accompagner les parents de la meilleure des façons. Donc aujourd'hui, on a notre société, on fait des actions pour les aidants, on fait des ateliers sur la résilience, la gestion de stress, comment prendre soin de son couple, l'organisation. Donc vraiment,
mais vous avez le temps de faire tout ça.
Eh bien, c'est notre société, donc du coup, on s'organise pour ça parce que c'est important et puis c'est important de voilà d'aller partager ce qu'on a appris. Et à côté de ça, on fait aussi on va essayer d'encourager les frères et les sœurs dans la foi qui traversent ces moments-là. Donc autant lorsqu'on travaille au sein de notre société, effectivement, on est très carré pour pas faire ce qu'on appelle du prosélytisme hein, parce qu'il y a des règles et c'est important aussi de se soumettre voilà, aux autorités, au gouvernement dans lequel le Seigneur nous place. Mais par contre, on va travailler aussi avec les églises, avec le corps de Christ pour sensibiliser les équipes pastorales, apostoliques à l'accueil des familles qui ont des enfants différents, voilà, au sein de leur église, comment aimer en action.
Tu dis différent, mais quelle sorte de, j'aime pas dire le mot clientèle, mais de famille, peut-être qu'il y a une famille qui nous écoute puis dit, c'est peut-être pour moi des problèmes différents. Ça touche toutes sortes de problèmes. Est-ce que tu peux peut-être les identifier si on a besoin d'aide, qu'on voudrait avoir des ressources avec vous, de l'aide?
Alors, oui, bien sûr. Donc, la mission va être bientôt lancée. Elle s'appelle la mission Paracletos. L'idée, c'est vraiment de faire plusieurs... On a plusieurs petits pôles. Le premier, c'est qu'on a un regroupement aujourd'hui qui a une quarantaine de familles. Suisse, Océan Indien, France. Et donc, on partage la parole de Dieu ensemble. On s'exhorte. Lorsqu'il y a un enfant qui est à l'hôpital, il y a toutes les familles qui se regroupent et qui prient, qui intercèdent. Donc ça, c'est vraiment le pôle famille. Et ensuite, on a un pôle qui s'appelle Méphibosheth. Et donc là, c'est de l'eau de bar à la table du roi. Et c'est de dire en fait aux églises, aux équipes apostoliques, les gens, il y a un Méphibosheth qui doit bénéficier de l'alliance et qui doit venir à la table du roi. Donc, allez les chercher. Parce que c'est pas aux institutions gouvernementales de faire ça. L'Église doit prendre sa place. L'Église doit aimer le plus faible. L'Église doit prendre soin de ses organes plus faibles du corps. Parce que lorsqu'un pleure, c'est tout le monde qui pleure avec. Donc ça, c'est vraiment la mission Méphibosheth et elle est lancée officiellement là à la fin du mois de novembre. On va sur Paris, on va prêcher dans une église et on va officiellement lancer ça sur le territoire français. Donc ça, c'est la mission Paracletos où les familles qui ont des enfants qui soient polyhandicapés avec des troubles du spectre de l'autisme, avec des maladies chroniques, peu importe, ils savent que là, ils vont venir et ils ne vont pas tomber sur des articles un peu compliqués qui prêchent des doctrines erronées. On va partager des choses qui sont basées sur les principes de la parole de Dieu, travailler en collaboration avec les églises, parce que c'est les églises locales qui sont les mains et les pieds de Jésus et qui vont aller prendre soin de ces femmes. Donc Cédric et moi, on est juste là pour dire, voilà, c'est possible, il faut les aimer, il faut prendre soin d'elles et il est temps surtout.
Ok. Et quand vous rencontrez les familles, est-ce que tu as quelquefois un petit peu une impression de déjà-vu de toi et Cédric il y a quelques années?
Alors oui, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance et surtout beaucoup de sensibilité au Saint-Esprit. On a des questions qui sont compliquées à répondre. On ne sait pas tout. Dieu est Dieu, il reste tout puissant, il fait ce qu'il veut. Il faut comprendre que on a grandi dans une culture avec Cédric où on croit au miraculeux. On a vu des gens avec des jambes repoussées, on a prié pour eux, on a vu les jambes repoussées, on a vu des nerfs optiques se redresser, on a dans notre entourage un ami proche, qui est un petit garçon qui a été ressuscité, donc on a vu plusieurs fois le miraculeux s'imposer. Et pourquoi ça se passe pas avec nous? Voilà, mais... Donc, ça demande beaucoup de bienveillance et de dire, nous, on ne sait pas. Mais par contre, on peut t'amener à celui qui sait tout. On peut te conduire et on peut t'amener à celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est fidèle, celui qui reste au contrôle des situations incontrôlables, celui qui viendra te consoler quand ton monde n'est que chaos. Voilà, et puis vraiment, notre cœur, c'est... d'amener les gens à comprendre qu'on est un corps. L'Église sur Terre, c'est le corps de Christ. Je me rappellerai, on a traversé une période très difficile là au mois de février où Louane a été hospitalisée pendant 15 jours. J'ai vraiment cru qu'on allait la perdre une autre fois. Elle était à plus de 8 litres d'oxygène. C'était compliqué pour moi. Et à un moment donné, je pense que c'est important que j'en parle ici, j'ai une amie au Canada là-bas qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et parce que vous le craignez, l'ange de l'Éternel campe et prendra soin de votre petite fille. » Et cette femme incroyable, c'est ma chère amie Yvine. Et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, tu te rends compte, j'étais en train de faire plein de trucs. Et en fait, je me suis arrêtée sur le bord de la route là pour t'envoyer ce message. Donc vraiment, l'idée, c'est de comprendre qu'on est un corps. Ouais. Et que si chacun en fait notre part, on aime comme Jésus nous a aimés, on encourage comme Jésus encourage, on va faire les courses comme Jésus aurait peut-être fait les courses pour nous, c'est l'Église en fait. Et ça, c'est... On a besoin en tant que famille de se sentir aimé, valorisé, et qu'on nous fasse une place à la table du roi. Qu'on ne soit pas de ceux qui empêchent le prédicateur de prêcher parce qu'on fait trop de bruit. Qu'on ne soit pas de ceux qui avons des petites odeurs parce qu'en pleine célébration, il y a une couche sale qui se remplit. On est dérangeant. Et ça, c'est OK. On est dérangeant. Qu'est-ce que l'Église fait avec les gens qui sont dérangeants? Est-ce qu'on va les aimer comme Jésus? Ou est-ce qu'on va dire, je prie pour toi, ma sœur?
Non, c'est vrai et je trouve ça vraiment super important que tu puisses le dire parce que ça nous interpelle,
ça nous interpelle
et puis ça remet aussi en question. Et là, c'est pas une histoire de quelqu'un rencontre Brunella, on aime Brunella, on se dit mais oui, il y a la place pour toi pour ta famille, mais après dans les faits, dans le concret, c'est Qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait de la place? Et puis, je te remercie, Brunella, c'est un appel, en fait, que tu lances à l'Église. Ouais. Et puis, c'est super aussi que vous puissiez mettre en place, tout ce côté formation. Parce que, autant, je crois qu'il peut, quelquefois manquer de bienveillance. Mais, quelquefois aussi, il y a beaucoup de maladresses qui viennent juste de l'ignorance.
Exactement.
On a besoin de la connaissance. Mmh. On a besoin de personnes expérimentées et formées qui vont venir dans nos églises pour nous dire voilà ce qui est faisable, voilà ce qui est bon pour ces familles, voilà ce qui n'est pas bon pour ces familles, ce qui fait du mal aussi, ce qui va éloigner, ce qui peut blesser. Et merci Brunella,
merci
pour tout ce travail que tu fais avec ton mari, avec ta famille aussi. Et écoute, on embrasse très très fort Louane, Josh et Raphaël. Et on l'a dit, ceci dit, c'est vrai que ce sera un grand plaisir que tu viennes à table avec nous pour de vrai. Alors écoute, c'est quelque chose, garde ça en tête. Nous aussi, on garde ça en tête. Écoute, on te dit à bientôt, Brunella. Un grand, grand merci encore. Et puis, merci à vous, les filles, d'avoir été là.
Un beau podcast.
Ouais, on a surmonté tous les défis techniques.
De la visio.
Tant bien que mal.
De la visio.
Bon, à bientôt, les filles. Bye. Vous avez entendu les témoignages de Brunella et son parcours de vie. Et je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'était inspirant, c'est enrichissant et ça nous interpelle aussi. Alors peut-être que nous n'avons pas les mêmes défis et que ce n'est pas avec des enfants qui sont différents, mais ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, on peut vivre toutes sortes de choses. Et je vous invite aujourd'hui à le mettre devant Dieu et à dire: Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce que tu as fait dans ma vie, cette fois où tu m'as relevé, cette fois où tu m'as délivré du rejet, cette fois où tu as restauré mon couple, cette fois où tu as accompli une réconciliation dans ma famille, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Alors ça ne veut pas forcément dire faire une vidéo YouTube, en témoigner à l'église, mais peut-être que on a une sagesse, on a une expérience de la bonté, de la grâce de Dieu qu'on a pu vivre, qu'on a pu expérimenter en première ligne, qu'on va pouvoir transmettre à une personne que le Saint-Esprit va nous montrer et nous dire: cette personne-là, elle a besoin d'entendre ton histoire. Alors je veux nous encourager aujourd'hui à être généreux avec ce que Dieu a fait pour nous, le faire avec sagesse, en étant inspiré et dirigé par le Saint-Esprit, parce que nous avons été consolés afin de pouvoir consoler les autres, et Dieu est intervenu dans notre détresse pour que nous aussi, à notre tour, il puisse nous utiliser pour intervenir dans la détresse de peut-être une personne qu'on n'avait pas soupçonnée qui passait par cette détresse. D'où l'importance de demander au Saint-Esprit: montre-moi cette personne qui a besoin d'entendre ce que tu as fait dans ma vie et à qui ça va faire du bien, parce que Dieu veut relever à travers vous, à travers moi. Alors ne gaspillons pas ce que Dieu a fait dans notre vie en le gardant pour nous, mais si c'est le temps de pouvoir le partager, eh bien faisons-le, mettant notre foi aussi en action, que Dieu va pouvoir nous utiliser pour pouvoir faire tellement de bien. Alors on se dit à très bientôt pour une prochaine émission, un prochain podcast à table avec Annabelle.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.